Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Pierre est chez le centurion de l'armée romaine, Césarée. Et il va, pour la première fois, témoigner de Jésus ressuscité et transmettre la foi. Vous savez ce qui s'est passé. Toute l'histoire de Jésus, comment il passait en faisant le bien, comment il guérissait les malades, comment il chassait le démon. Et voilà que Dieu l'a ressuscité. Jésus, c'est un homme historique. On sait où il est né, on sait quand il est né, et on sait ce qu'il a fait. Vous savez ce qui s'est passé. C'est l'histoire, c'est scientifique. Personne, absolument personne ne peut contester ça. Mais nous, nous affirmons que cet homme est fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité. Saint Paul le dira d'une autre manière aux Romains, « Si de ta bouche tu proclames que Jésus est fils de Dieu, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. » Voilà toute la question. Un homme historiquement indiscutable, tellement important qu'on compte le temps avant et après lui. Nous disons, nous autres, les chrétiens, et depuis 2000 ans, les chrétiens le disent et l'affirment, cet homme est fils de Dieu et il est ressuscité. Il faut penser, il faut essayer d'imaginer cette course le matin de Pâques. Marie-Madeleine, toute excitée, vient trouver les disciples. On a ouvert le tombeau, on a pris le corps de Jésus et nous ne savons pas où on l'a déposé. Il n'a pas pris le temps de regarder en détail. Il n'a pas pris le temps de réfléchir. Pour elle, Jésus a été enlevé. On a enlevé son corps. Les apôtres courent, Pierre et Jean ensemble. Jean, plus jeune, va plus vite. Jean laisse Pierre arriver le premier. Ou plus exactement, Jean arrive le premier, mais laisse Pierre entrer le premier. En se penchant, il avait déjà vu le linge Et c'est ça la clé du témoignage. Les linges non pas enlevés par quelqu'un, mais qui ont été vidés de leur contenant. Les linges sont aplatis, comme s'ils avaient été tout d'un coup vidés, on ne sait pas comment. Les linges n'ont pas été arrachés, les linges n'ont pas été enlevés par la main de l'homme. On n'a pas enlevé le corps de Jésus avec les linges. Le corps de Jésus était enveloppé du linceul, avec la tête nouée par le suaire. Et tout est resté à plat, comme vidé. Pierre regarde, tout pensif, il réfléchit. Jean, lui, entre à son tour, il vit et il crut. Comment la foi est-elle née en lui ? La foi est née en lui à partir de ses linges, les linges vides, aplatis, quittés mystérieusement par celui qui était au-dedans. Et puis l'Esprit Saint souffle au cœur de Jean, parce que Jean aimait profondément Jésus, Pierre l'aimait aussi bien sûr. Mais Jean perspicace, Jean plus rapide, Jean libre aussi, Pierre sait que sa décision engagera toute l'Église. Jean, lui, est libre de croire tout de suite. Il croit la résurrection. Non pas comme Lazare, il y avait 8 jours, non pas comme Lazare qui a été réanimé, qui est sorti de son tombeau enveloppé des linges, mais il est ressuscité, c'est-à-dire il a disparu de ce monde. Une vie nouvelle, une vie radicalement nouvelle qui n'obéit plus aux lois de la nature. Mais au-delà de la mort, il est vivant. Et c'est ce que les apôtres vont transmettre et nous ont transmis jusqu'à nous-mêmes, 2000 ans plus tard, et ce que nous-mêmes, à notre tour, nous transmettons au monde qui ne le sait pas, au monde qui l'ignore. Comme on l'a chanté dans la séquence, la vie et la mort se sont livrés un duel prodigieux. L'agneau a racheté les brebis. Mais c'est l'inverse qui se passe d'habitude. Ce sont les brebis qui protègent les agneaux. Non, là, c'est l'agneau sans tache, l'agneau dont nous parlions le soir du Jeudi Saint. C'est l'agneau qui a racheté les brebis. C'est lui qui s'est offert lui-même en victime d'amour. Il s'est offert pour nos péchés. Il est mort d'amour. Et Dieu, par la puissance de sa miséricorde, l'a ressuscité des morts. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la recevoir de nouveau. Jésus, par la puissance de l'amour de Dieu, reçoit de nouveau la vie. Il est vivant. Oui, la vie et la mort se sont livrés un duel prodigieux. Dans le secret de la nuit, l'amour a pénétré la mort. La mort, c'est le manque d'amour. La mort, c'est la négation de l'amour. La mort, c'est le mensonge. La mort, c'est le refus. L'amour a pénétré au-dedans de la mort et lui a arraché son dard venimeux. « Ô mort, où est ta victoire ?» criera saint Paul. « Où est ta victoire ? Puisque l'amour t'a arraché ton dard venimeux, la mort ne peut plus rien contre l'amour. » Jusqu'à Jésus, on mourait parce que la mort nous tombait dessus. À partir de Jésus, on pourra, comme lui, mourir d'amour, offrir sa vie. Vous voulez vivre ? Alors il faut mourir. Si vous mourrez, si vous déposez votre vie, alors vous vivrez de cette vie nouvelle, radicalement nouvelle, cette vie que personne ne pourra vous arracher. Si au contraire vous voulez retenir cette vie, si vous voulez posséder cette vie, comme Satan avait voulu le souffler à nos premiers parents dans le jardin, si vous voulez posséder cette vie, alors vous la perdrez irrémédiablement. La mort a livré un combat terrible, mais les ténèbres de la mort n'ont pas pu étouffer la lumière de la vie, et la vie a été victorieuse. Le matin de Pâques, on se demande, et on a raison de se demander, mais qu'est-ce que ça change ? Mais ça change tout. Les chrétiens ne sont pas des hommes différents, des personnes différentes des autres. Leur témoignage devrait attirer l'œil. Quel est le témoignage des chrétiens? Ils ont les mêmes ennuis que les autres, ils ont la même vie que les autres, ils ont les mêmes difficultés que les autres, ils ont les mêmes joies que les autres. Mais quand ils pleurent, leurs larmes ne sont pas des larmes de désespoir. Leurs larmes sont douloureuses, mais pleines d'espérance. Quand ils se réjouissent, ils ne se réjouissent pas pour des choses futiles de la terre. Ils se réjouissent parce que leur nom est inscrit dans les cieux, dans le cœur de Dieu. Bien sûr, les plaisirs de la terre font partie de la vie et ne sont pas interdits, même aux chrétiens. Mais les chrétiens ne veulent pas s'arrêter aux plaisirs de la terre, parce qu'ils savent que la seule vraie joie, c'est d'appartenir au Seigneur et d'être vivant pour toujours. Qu'est-ce qui change? Mais tout change, puisque notre horizon n'est plus dans la tombe, notre horizon est dans le ciel. Nous ne vivons plus pour quelques années sur la terre, nous vivons pour l'éternité. Cette nuit, ceux qui sont renés dans le baptême ont découvert une vie radicalement nouvelle. Leur vie a été renouvelée en totalité, en plénitude. Ils sont passés d'une vie mortelle à une vie immortelle. Et nous tous qui avons renouvelé les promesses de notre baptême cette nuit, nous avons renouvelé notre appartenance au Christ. Nous avons renouvelé ce choix que nous avons fait d'être de lui, avec lui et en lui. Désormais, dit saint Paul, votre vie est cachée dans le Christ. Maintenant, notre mission, disait saint Pierre au centurion, notre mission, c'est de l'annoncer au monde qui ne le sait pas, qui l'ignore. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. L'immense majorité de nos contemporains, ne sait rien de Jésus et de sa résurrection. Ils ont vaguement entendu parler de Pâques, mais ils ne savent plus ce que c'est. Et ce n'est pas de leur faute, c'est souvent de la faute des chrétiens. Souvent de la faute des chrétiens qui portent des faux témoignages. Seigneur, prends pitié de nous, nous sommes pécheurs. Si notre témoignage était plus authentique, si notre témoignage était plus convaincu, il serait plus convaincant. Est-ce que nous sommes tellement ancrés dans la bonne nouvelle que nous sommes capables de la transmettre? Peut-être pas avec des paroles, peut-être pas avec des discours, chacun son métier et sa grâce, chacun son charisme, mais que nous puissions transmettre cette bonne nouvelle par une nouvelle manière de vivre, par une nouvelle manière de considérer la vie et le monde. Non pas que le monde ne nous intéresse pas. Nous sommes préoccupés, nous aussi, par les pauvres, par l'injustice, par les difficultés de ce monde, et peut-être plus préoccupés que les autres, parce que nous sommes avertis par Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Cet avertissement devrait nous brûler. Cet avertissement devrait nous consumer. Que notre témoignage soit authentique, nous le demandons à la Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de chacun d'entre nous. C'est elle qui nous apprend parce que c'est elle qui est le modèle de la vie chrétienne. C'est elle qui est le modèle de la foi, de l'espérance et de la charité. Accueillons donc ce matin le témoignage de l'Église, le témoignage de l'Église qui nous affirme qu'il est ressuscité, et laissons jaillir en nous l'Esprit qui, comme une source d'eau vive, nous donne, nous communique la foi qui va déborder de nous et arroser le monde autour de nous pour que le monde sache que Dieu est amour et qu'il nous aime infiniment. Amen.